voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Renouvellement des générations, souveraineté alimentaire, simplification. Le gouvernement va dévoiler ce matin son projet de loi d'orientation sur l'agriculture. Nous ferons le point sur ce texte dans une minute.
L'agriculture également au cœur du billet politique de Jean-Lémarie. Faut-il brader la qualité ? Nous en reparlerons dans un quart d'heure.
Reportage à Boutcha, 2 ans après la découverte des massacres de civils ukrainiens. La ville se reconstruit, mais certains habitants craignent un retour de l'armée russe.
Les prix de l'énergie repartent à la hausse ce mois-ci en Allemagne. C'est la conséquence de la fin du taux réduit de TVA sur le prix du gaz. Explication à la fin du journal.
Plusieurs fois repoussé, le projet de loi pour l'agriculture, attendu depuis plus d'un an, sera présenté ce matin en Conseil des ministres. Un projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations. Les premières versions visaient surtout à faciliter l'installation de nouveaux agriculteurs, alors qu'un tiers d'entre eux seront, dans 10 ans, en âge de partir à la retraite. Entre-temps, la crise agricole est passée par là. On se souvient des manifestations au début de l'année, des tensions autour du Salon de l'agriculture. Ce qui a contraint le gouvernement à revoir son texte, Catherine Pétillon.
De nouveaux objectifs ont trouvé place dans cette version du texte remodelé. La simplification et la souveraineté alimentaire et agricole. Une réponse directe aux revendications récentes des jeunes agriculteurs et de la FNSEA, syndicat dont le président Arnaud Rousseau se réjouit des grandes orientations prises. Le projet de loi fait de la souveraineté alimentaire l'une des priorités stratégiques de nos politiques publiques. L'agriculture au-dessus de tout, avait martelé Gabriel Attal en pleine crise. Le texte définit désormais l'agriculture, la pêche et l'aquaculture comme d'intérêt général majeur. Une nouveauté qui devrait avoir des conséquences juridiques, notamment pour faciliter les installations agricoles. Le gouvernement a aussi introduit une présomption d'urgence en cas de contentieux autour d'une réserve d'eau pour l'irrigation ou de bâtiments d'élevage, projets qui font souvent l'objet de recours, notamment de la part d'associations environnementales. Le projet de loi veut aussi soutenir la souveraineté agricole, définie dans le texte comme la capacité à produire durablement de l'énergie avec la biomasse. Ces deux axes inquiètent une partie des agriculteurs, des élus locaux ou de syndicats, comme la Confédération paysanne. Ils alertent sur le risque de faire passer l'énergie avant l'agriculture et sur les éventuelles conséquences d'un droit à produire qui passerait avant le droit à l'environnement. Pas de grand changement en revanche sur l'autre grand objet de la loi, le renouvellement des générations. Le gouvernement ne donne toujours pas d'objectifs chiffrés. Le texte contient la création d'un nouveau diplôme Bac plus 3 et celle de France Service Agriculture, un guichet unique coordonné par les chambres d'agriculture pour ceux qui souhaitent s'installer.
L'agriculture confrontée notamment au dérèglement climatique, il faut s'attendre à des événements plus intenses, amplifiés dans les prochaines décennies. Les crues, les inondations par exemple, pourraient toucher des zones jusque-là plutôt épargnées. On se souvient des épisodes à répétition cet automne dans le Pas-de-Calais. Actuellement, Lyon est en vigilance rouge pour crues et 3 départements voisins, l'Aube, la Côte d'Or et la Haute-Marne, sont en orange. À chaque fois ou presque, les mêmes questions reviennent. Comment anticiper ces épisodes, mais aussi comment lutter contre et puis à quoi servent les digues? Peut-on en construire de toujours plus hautes? Explication de Mathieu Laurent.
Les digues font ce qu'elles peuvent et si on leur demande de faire plus, on court à la catastrophe. L'histoire l'a montré. Rémi Tourment, ingénieur, chercheur à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, fait référence à 3 terribles crues de la Loire à 10 ans d'intervalle entre 1846 et 1866.
À chaque fois, on a réparé les brèches sur les digues et on a rehaussé les digues. Mais au fur et à mesure qu'on rehausse les digues, si on ne laisse pas d'espace, si on ne laisse pas une certaine marge entre le niveau de protection et le niveau de sûreté pour permettre des inondations sans risque, on aura de toute façon des brèches parce que l'eau montera plus haut à cause des digues. Ça va créer des vagues, ça va donner des volumes et des vitesses d'inondation supplémentaires. Tous les ouvrages ont une limite, mais il faut être capable que quand on dépasse cette limite, l'ouvrage ne crée pas un risque plus grave.
Une crue sort les digues d'un relatif oubli. Octobre 1993, le Petit Rhône noie des dizaines de milliers d'hectares en Camargue. Une réflexion lente s'enclenche jusqu'à la prise en charge de ces ouvrages récentes et en devenir. Rémi Tourment.
Il y a une date importante, c'est 2015. La création de la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations, qui a attribué cette compétence aux communautés de communes, parce qu'avant ça, on avait de nombreux ouvrages qui n'avaient pas de responsables. Les choses s'améliorent nettement. C'est ce qu'on appelle les études de danger, les analyses de risque, qui permettent d'étudier au cas par cas les performances qu'on est capable d'assumer localement, par chacun des systèmes.
Les digues ne sont qu'une variable de l'équation que pose une crue, équation dont les inconnus se nomment géographie, topographie, hydrologie, urbanisation et changement climatique.
Mathieu Laurent, dans ce contexte, le gouvernement se veut proche des sinistrés. Début mars, Gabriel Attal s'est rendu pour la troisième fois auprès des victimes d'inondations du Pas-de-Calais. Le Premier ministre, qui cet après-midi sera seul face aux députés, il expérimente une nouvelle formule des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. La présidente de l'institution, Yaël Braun-Pivet, espère ainsi redynamiser un exercice un peu usé. La gauche critique, une partie de la majorité et des ministres aussi, mais Matignon assume Rosalie Lafarge.
Il a toujours aimé la joute oratoire, Gabriel Attal, insiste son entourage. Trois quarts d'heure de face à face, ça ne lui fait pas peur au Premier ministre, bien au contraire. Et tant pis si certains, au Modem, chez Horizon, voire chez Renaissance, ne voient pas d'un très bon œil ce nouveau format. On me l'a proposé, rappelle le chef du gouvernement, pour souligner qu'il n'en est pas à l'initiative. C'est bien une idée de la présidente de l'Assemblée au départ. Alors pourquoi se priver, sourit un pilier macroniste qui, lui, trouve Gabriel Attal particulièrement bon dans l'exercice. Mais la personnification poussée à l'extrême n'est jamais sans risque, prévient un élu du camp présidentiel qui poursuit. Il ne peut pas que communiquer, même sur tous les sujets. Il a demandé à ses ministres des résultats, des résultats, des résultats. Il doit s'appliquer le même mantra. Le genre de critique qui fait bondir un conseiller de l'exécutif. Ce n'est pas un gros mot de dire qu'on fait de la communication, mais j'en ai marre d'entendre qu'on ne fait que ça, s'énerve-t-il. Gabriel Attal obtient des avancées sur plein de sujets. Il parvient à mettre plein de thèmes dans le débat public. Qui fait mieux aujourd'hui, ajoute le même. Conscient que cette sorte de boulimie en la matière nourrit la comparaison tentante entre l'actuel Premier ministre et l'ancien président Nicolas Sarkozy. Comparaison assumée, même presque revendiquée par une collaboratrice gouvernementale qui n'y voit rien de disgracieux. S'ils ont des histoires et des parcours différents, ils ont en commun une certaine énergie et surtout, considère-t-elle, cette capacité à sentir le pays.
Et nous reviendrons plus longuement sur le rôle de ces questions au gouvernement et sur les raisons de cette expérimentation dans le journal de midi et demi sur France Culture. L'invité de Thomas Cluzel sera Dorothée Régnier, maîtresse de conférence à Sciences Po Lille. Le Parlement s'apprête à adopter définitivement aujourd'hui un texte socialiste sur EDF qui a finalement reçu le soutien de l'exécutif après un accord pour retirer deux mesures en particulier. Le texte mêle des dispositions visant à protéger EDF d'un démembrement et des extension de tarifs réglementés de l'électricité aux petites entreprises et aux communes.
8h07 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Dans quelques instants, nous retrouverons notre invité, Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre. Mais là, c'est le chef de l'état-major israélien qui reconnaît une grave erreur après la mort de travailleurs humanitaires à Gaza.
Oui, 7 collaborateurs de l'ONG World Central Kitchen qui distribue des vivres ont été tués dans une frappe israélienne lundi dans la bande de Gaza. Le président américain Joe Biden s'est dit indigné pour lui. Israël ne protège pas assez les volontaires qui viennent en aide à la population palestinienne. La communauté internationale également mobilisée sur la guerre en Ukraine, le pays envahi par la Russie. Il y a tout juste 2 ans, le monde découvrait les massacres de civils ukrainiens à Boutcha, en grande banlieue de Kiev. L'Ukraine accuse les forces russes d'avoir assassiné 500 habitants. Mais aujourd'hui, Boutcha refuse cette étiquette de ville martyre et se cherche un avenir en reconstruisant à tout va pour tenter de tourner la page. Sur place, Agathe Mahuet avec Yachar Fazilov.
Cela fait 4 mois qu'ils rénovent le quartier, Dmitri. Isoler les façades, les fondations, remplacer toutes les fenêtres de ces habitations criblées de balles il y a 2 ans, le chef de chantier est fier.
Le pays est encore en guerre, mais nous sommes déjà en train de nous relever.
Mais certains s'interrogent. Sergueï vit là depuis toujours.
Il faudrait plutôt investir cet argent dans l'effort de guerre. Il nous change nos fenêtres, ça ne nous coûte rien, ok. Mais si Poutine revient, à quoi bon ?
Au coin de ces rues qui avaient fait le tour du monde, des cadavres dans l'une, des chars calcinés dans l'autre, Ludmila, elle, respire enfin un peu. Toute cette rénovation, pour moi, c'est comme une nouvelle vie, dit-elle. Les Russes ont occupé puis brûlé sa maison et tué son mari.
Mais bientôt, ce sera comme neuf. Et même s'il s'est passé des choses terribles ici, je veux y rester. restés.
2000 bâtiments de la région de Boutcha ont déjà été retapés. Le financement, l'État et la ville à 90%, indique Dmitro Tchetchouk, l'adjoint à la rénovation.
Nous ne voulons pas que Boutcha reste une ville martyre. Bien sûr, on n'oubliera jamais ce que les Russes ont fait ici. Mais nous voulons être ce symbole de renaissance et montrer l'exemple à toute l'Ukraine que l'on peut se relever rapidement.
Reconstruire et se souvenir, la ville vient d'inaugurer aussi un nouveau lieu de mémoire pour ses centaines de victimes.
Et par ailleurs, un registre de dédommagement est désormais disponible auprès de tous les Ukrainiens dont la maison a été détruite lors de l'invasion russe. Mis en place depuis hier, il rassemble déjà des centaines de demandes. Alors Vladimir Poutine et la Russie rendront-ils un jour des comptes sur les crimes commis en Ukraine? Depuis le début du conflit, les Européens se mobilisent auprès des Ukrainiens pour collecter des preuves et pouvoir un jour instruire un procès pour crimes d'agression. Une équipe conjointe d'enquêteurs et un centre judiciaire international dédié à la guerre en Ukraine sont installés à La Haye, au siège d'Eurojust, l'agence européenne pour la coopération en matière de justice. Dans l'histoire des conflits, jamais un tel travail d'enquête n'a été mené en temps réel, alors que la guerre n'est pas terminée, Angélique Boin.
Basés à La Haye, enquêteurs et procureurs ukrainiens collaborent avec des homologues européens et depuis peu une magistrate américaine. En lien avec leurs équipes sur le terrain, ils collectent, analysent et classent des centaines de milliers de preuves. Images satellites d'immeubles éventrés, vidéos ou photos prises par les victimes ou bien postées sur les réseaux, parfois par les bourreaux eux-mêmes, enregistrements de conversations téléphoniques interceptées par des militaires. Tout cela s'ajoute aux auditions et aux preuves apportées par les victimes et témoins des tueries, des viols et des exactions, des témoignages recueillis sur place en Ukraine, mais aussi auprès de réfugiés partout en Europe. Leur numérisation permet de croiser les preuves, d'identifier les témoignages les plus fiables et ainsi d'établir des faits. Au sein d'un centre judiciaire dédié, l'équipe internationale de procureurs prépare les fondations d'un futur procès de Vladimir Poutine et de son cercle rapproché. Il faudra néanmoins pour cela créer un tribunal spécial dont le contour juridique reste à déterminer.
Angélique Boin, après le début de la guerre en Ukraine, le gouvernement allemand avait mis en place un dispositif pour aider les consommateurs face à la flambée des prix de l'énergie. Mais c'en est terminé du taux réduit de TVA sur le prix du gaz. Il était passé de 19 à 7%. Les prix vont donc repartir à la hausse ce mois-ci et cela va se sentir sur la facture. À Berlin, Sébastien Baer.
La baisse de la TVA était entrée en vigueur en octobre 2022, au plus fort du pic inflationniste en Allemagne. Le prix du gaz avait alors atteint un niveau record, un peu plus de 40 centimes le kilowattheure, soit 6 fois le tarif en vigueur un an auparavant. Cette remise, pendant 18 mois, aura profité aux 20 millions d'Allemands qui se chauffent au gaz et permis à une famille de 4 personnes d'économiser en moyenne 550 euros. Les ménages ont aussi moins consommé grâce aux températures clémentes de l'hiver. L'Allemagne a enregistré, tour à tour, les mois de février et mars les plus chauds depuis le début des relevés météo en 1881. Avec le retour de la TVA à 19%, le prix moyen du kilowattheure de gaz va passer de 9,8 à 10,9 centimes. Une famille qui consomme annuellement 20 000 kilowattheures verra sa facture augmenter de 220 euros. Pour une personne seule, la hausse représentera en moyenne 52 euros cette année. Mais cette augmentation devrait être en partie compensée par la fin de l'envolée des prix à la consommation en Allemagne. En mars, l'inflation a reculé à 2,2% après un pic à 5,9% l'année dernière.
Sébastien Baer, le Sénégal devrait avoir un nouveau gouvernement dans les prochaines heures. Bassirou Diomaye Faye, élu président fin mars et au pouvoir officiellement depuis hier, a nommé son mentor Ousmane Sonko Premier ministre. Le nouveau dirigeant promet changement systémique, souveraineté et apaisement après plusieurs semaines de crise politique. 4 personnes sont mortes et près de 60 blessées à Taïwan selon les autorités à cause d'un séisme aujourd'hui. Le plus puissant a frappé l'île depuis 25 ans. Son épicentre a été détecté en mer à faible profondeur au large des côtes est de Taïwan. Le tremblement de terre a déclenché des alertes au tsunami, notamment au Japon, mais finalement annulé. Et puis nous en parlions au début de ce journal. Lyon est encore en vigilance rouge au cru ce matin. L'Aube, la Côte d'Or et la Haute-Marne sont en orange pour cru également. Météo France prévoit aujourd'hui des pluies sur l'est du pays, un temps plutôt gris ailleurs, ensoleillé près de la Méditerranée. Pas plus de 11 degrés cet après-midi à Belfort, 14 à Lille, 16 à Paris et Rennes, 18 degrés à Lyon et Marseille, jusqu'à 19 attendus à Toulouse.